7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quelle école pour les enfants migrants non francophones? Ils ont parfois connu la guerre, en tout cas les séparations familiales, le déracinement. Ils ignorent souvent tout des codes de la classe en France. Tenir un cahier, apprendre ses leçons, sans parler de la langue. Et il y aurait, selon le ministère de l'Éducation nationale, 60 000 enfants allophones, c'est-à-dire des enfants de langue maternelle étrangère, nouvellement arrivés. Alors comment sont-ils accueillis en France? Avec quels moyens pour faciliter leur intégration scolaire et leur réussite surtout? On va en parler avec une enseignante. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Vous enseignez dans le sud de la France, dans une école classée en REP, c'est-à-dire réseau d'éducation prioritaire, dite de regroupement. Vous avez combien d'enfants dans votre classe qui maîtrisent très peu le français cette année, Anouk?
Alors cette année, sur une classe de CP à 12, puisque en REP on est à 12, j'ai 5 enfants allophones. Donc on est à quasiment la moitié de la classe aujourd'hui.
Qui ne parle pratiquement pas le français.
Pratiquement pas, mais ils apprennent très vite, on parlera.
Vous publiez Merci Maîtresse aux éditions du Cherche Midi, ça sort là demain, à partir d'un blog du même nom. Une prof qui publie un ouvrage anonyme, c'est plutôt rare. Pourquoi vous ne souhaitez pas que l'on divulgue votre nom, réel, votre identité?
Parce que tout ce qui est dans ce livre est vrai et vécu. Les enfants dont je parle existent, le prénom est, et les prénoms sont changés. Les descriptions physiques sont changées et j'exerce encore aujourd'hui dans cette école. Donc je pars du principe que les parents qui me laissent leurs enfants le matin me donnent leur confiance et que je ne veux pas qu'ils pensent cette confiance trahie. Donc pour moi c'est important de rester anonyme. Et puis que ce soit moi ou quelqu'un d'autre n'a pas d'importance, c'est le message qui est important.
Isabelle Rigoni également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'Institut National sur les besoins particuliers, les besoins éducatifs particuliers, ça comprend le handicap, mais bien sûr aussi les enfants qui ne sont pas de langue maternelle française et qui viennent d'arriver sur le territoire français. Vous avez coordonné une étude sur ces élèves migrants non francophones pour le Défenseur des droits, on en parlera. C'est un sujet sensible en ce moment, alors que par ailleurs la polémique sur les mineurs étrangers et le durcissement des conditions d'accueil ne cessent d'être dénoncées par les associations, y compris par l'UNICEF, qui conteste la légalité du décret sur le fichage des mineurs isolés. On en parlera également dans cette émission avec le directeur d'UNICEF France. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur notre numéro de téléphone WhatsApp ou poser vos questions aussi à nos invités sur la scolarisation des enfants non francophones. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp. Oh
yeah. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Anouk, il faut quand même que je vous pose la question. Vous étiez journaliste à France Info il y a quelques années. Vous êtes devenue professeur des écoles. Pourquoi?
Pourquoi? Pour beaucoup de raisons, mais avec du recul, je pense que j'ai compris maintenant, 7 ou 8 années après, pourquoi. J'avais envie de faire quelque chose où je me sentais utile de manière beaucoup plus directe, où j'avais ce sentiment d'utilité qui... Voilà, là, quand je rentre de mes journées de travail, j'ai servi à quelque chose pour tel et tel enfant, et le lendemain pour tel et tel autre. Donc j'avais ce besoin-là.
Même quand vous vous sentez impuissante, parce que vous le décrivez souvent, oui, dans votre livre, manque de moyens, bien et sûr, puis les problèmes des enfants sont tellement immenses aussi, parfois.
Oui, mais du coup, c'est le penchant, se sentir utile un jour, pour le lendemain se sentir complètement inutile, avoir envie de baisser les bras. Mais c'est ce qui nous fait tenir, cette envie de les aider. Quand je dis de les aider, c'est pas seulement sur des enfants en difficulté, hein. On peut les aider tous. Apprendre à lire, c'est aider quelqu'un. Donc voilà, j'avais ce besoin.
La pauvreté, les problèmes sociaux, les enfants fracassés aussi pour certains, vous connaissiez en tant que journaliste, mais de manière complètement extérieure.
Tout à fait.
Là, maintenant, vous êtes dedans.
Ouais. Tout à fait.
Et avec une injonction, c'est que vous devez réussir d'une certaine manière.
Oui, en tout cas, je m'impose cette injonction. C'est-à-dire que je me dois de réussir et je me dois de finir une année scolaire en me disant, bon, je les ai pas tous sauvés. Comme je dis dans le livre, je suis pas Monsieur Keaton dans le cercle des poètes disparus, mais il y en a quelques-uns peut-être à qui j'ai apporté quelque chose. Et donc ça, c'est quand même très grisant. Et j'espère que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là aujourd'hui.
Ouais, et ce sont des enfants qui savent particulièrement dire merci.
Oui. Ils savent dire merci, en tout cas s'ils ne le disent pas avec des mots, ils nous le font comprendre. Et ça aussi c'est très gratifiant et c'est très grisant et c'est une des raisons pour lesquelles ce métier, On a beau se plaindre souvent du manque de moyens, etc., on continue et on y retourne tous les jours parce qu'on a ça, parce qu'on a des petits yeux d'enfant auxquels on a appris que 2 plus 2, ça faisait 4, et qui sont tellement fiers et tellement contents de le savoir. Voilà, moi, pour moi, ça me suffit, quoi.
Et quelles sont les situations de ces enfants qui débarquent dans le système français ?
Alors, je dirais qu'il n'y a pas une situation, parce qu'ils ont chacun leur vie, chacun leur passé, chacun leur petite valise ou leur grosse valise. C'est toujours la question.
Vous avez vu débarquer quand même pas mal de nationalités dans votre classe. Hein.
Oui, oui, il y en a toutes sortes. Là, je disais très récemment, un enfant qui est arrivé de Biélorussie. Donc, j'ai même eu moi-même un peu de mal à placer ce pays sur la carte. Comme il y avait Russie, je savais que c'était pas loin de la Russie. Donc, quand on est allé avec tous les autres élèves sur le petit planisphère qu'on a dans la classe pour mettre la petite punaise, pour montrer d'où venait cet enfant, il a fallu que je cherche un petit peu. Donc là, c'est un enfant qui arrive, qui a 6 ans et demi et qui n'a jamais été scolarisé. Donc là, c'est une autre particularité. C'est un pays loin, c'est un long voyage, visiblement, d'après ce que le père a réussi à nous raconter, même si pour nous raconter des choses, encore faut-il pouvoir parler notre langue. Et en plus, c'est un enfant qui n'avait jamais mis les pieds dans une école, qui n'avait jamais vu une maîtresse, qui n'avait jamais été assis à côté de 10, 15 autres enfants, qui n'avait jamais joué dans une cour de récréation. Donc ça peut s'accompagner de tout ça. Vous le disiez très bien en introduction, la langue n'est pas le seul obstacle. Et puis je dirais même que c'est pas un obstacle, parce qu'ils apprennent très très vite. Le plus difficile pour eux, c'est de trouver leur repère, de savoir où ils sont, ce qu'ils ont droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, comment apprendre. Voilà, on est plus dans la méthodologie de apprendre à être un élève. Voilà. Ce qui déjà n'est pas évident pour nos enfants français. Hein. Donc, pour un enfant qui arrive du bout du monde, c'est encore plus compliqué.
Apprendre à être un élève avec des histoires qui sont difficiles parfois. Vous pouvez nous en citer quelques-unes ?
Alors, j'ai un petit garçon dans ma classe cette année qui arrive de Syrie, mais qui n'a aucune conscience et aucune connaissance de son passé. Alors, est-ce que c'est un refus ? Il a 6 ans et demi. Je crois qu'il vient de faire ses 7 ans. Est-ce que c'est un refus ? Est-ce que c'est ses parents qui ne lui en parlent pas ? Mais, par exemple, quand il a fallu mettre cette petite punaise sur le planisphère, je lui ai dit, alors, viens, on va montrer aux autres copains quel est ton pays. Et il n'a pas voulu que je mette sur la Syrie. Et je lui ai dit, mais c'est ce pays dont tu viens, c'est écrit sur ta fiche de renseignement, il est né à Homs, en plus. Donc, voilà, là, dans le symbolique, c'était quand même... Et non. Et non seulement il n'a pas voulu, mais en plus, j'ai senti qu'il était très gêné. Que quand on a parlé ensuite de la guerre, parce que du coup, moi j'explique, hein, je parle beaucoup aux enfants, voilà, il arrive d'un pays où il s'est passé ça, il est parti pour telle et telle raison, il était très gêné, il ne voulait pas. Ça arrive très souvent qu'on ait des enfants comme ça qui... Non, bah maintenant je suis là, donc tu parles du fait que je suis là, tu ne parles pas de ce qui s'est passé avant. Ça, c'est très fréquent. Il y a un petit garçon, pareil, qui est arrivé de Syrie, dont je parle dans le livre, que j'appelle Fouad dans le livre, qui lui est arrivé avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de bruit, beaucoup de... Donc il est... Je raconte aussi dans le bouquin, on a fait une sortie au parc, ça faisait 2-3 jours qu'il était là, et il y a un avion qui passe au-dessus à ce moment-là. Donc tous les enfants regardent évidemment l'avion. Et lui, il regarde l'avion et puis il me dit « Bachar, Bachar, boum, boum, boum ». Donc moi, évidemment, ça m'a effrayée. Donc c'est très compliqué. Est-ce que je continue à le faire parler ? Est-ce que je lui dis « Stop, t'en parles plus ?» Est-ce que voilà. Donc la position en tant qu'enseignante est difficile. Donc il voulait parler, donc ça a duré comme ça 2-3 jours, il racontait aux copains. Bon, puis je me suis dit, au bout d'un moment, il va falloir poser les choses, parce que pour lui comme pour les autres, il faut que... Donc il y avait une AVS dans l'école qui, en l'occurrence, parlait arabe.
Une auxiliaire de vie scolaire.
Pardon, voilà, excusez-moi les acronymes. Donc je lui ai demandé de venir dans la classe et de traduire des questions que les enfants de la classe avaient à poser à ce petit garçon. Et donc il a répondu aux questions. On n'a pas tout traduit. Voilà. Parce que quand les enfants lui ont demandé « Est-ce que tu as perdu des membres de ta famille ?» l'auxiliaire de vie scolaire s'est retournée vers moi, elle m'a dit ça, je peux pas le raconter aux autres. C'était très violent, c'était très... Voilà. On a fait intervenir la psychologue scolaire avec une interprète, parce que cet enfant avait besoin de poser les choses et de...
Ça veut dire que la classe, elle vit aussi au rythme de ses arrivées, ses enfants, qui parfois d'ailleurs sont absents, ne restent pas toute l'année scolaire, parce qu'ils sont en transit d'une ville à l'autre. Enfin, il faut imaginer aussi ces parcours avec des enfants qui sont bourlingués par les aléas de la vie et de la migration, des déplacements. Quel est le principe d'une école de regroupement, Anouk ?
Alors, c'est simplement que dans une ville, un certain nombre d'écoles sont désignées de regroupement par, j'imagine que c'est la mairie ou l'inspection, je ne sais pas exactement. Et donc, quand des familles étrangères arrivent, elles sont souvent accompagnées par des associations qui leur disent « mettez vos enfants à l'école, C'est rarement l'initiative des familles, mais c'est des associations qui les accompagnent. Et donc, quand elles vont en mairie, on va les mettre dans une de ces écoles de regroupement. Ça veut simplement dire qu'on a dans notre école une enseignante spécialisée qui va venir chercher les enfants dans les classes quelques heures, entre 6 et 9 heures, ça dépend de l'enfant et depuis combien de temps il est en France, et leur apprendre le français.
Ouais. Où là, effectivement, on fait de la langue voilà. Pour qu'ils puissent rattraper au plus vite le niveau des
oui.
autres...
Mais sachant que le principe, ça reste que l'enfant soit d'abord dans sa classe, pour être justement dans un bain de langue. Et il est sorti de temps en temps pour apprendre le français en tant que tel.
Ouais, alors on se dit, effectivement, en CP, c'est l'année où on doit apprendre à lire, et où, a priori, bah, il faut être bien tranquille dans sa tête pour pouvoir assimiler l'apprentissage de la lecture. Ils ont une histoire difficile, ils ne parlent pas la langue. Ça fait beaucoup pour un petit garçon, une petite fille de 6, 7 ans ou 8 ans parfois.
C'est énorme. Et si vous rajoutez un alphabet qui n'est pas le même, je vous laisse imaginer la suite. Mais ils apprennent vraiment vite. Ils sont surprenants. Vraiment surprenants.
Vous accueillez aussi des enfants qui sont en situation illégale ?
Oui.
Isabelle Rigoni, les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, c'est 60 700 enfants non francophones nouvellement arrivés. C'était les chiffres de 2016-2017, dont 90% bénéficient d'un soutien linguistique. Hein, c'est ce qu'affirme une note du ministère. C'est quoi la réalité de ces chiffres ou plutôt, qu'est-ce que ça, à quoi ça correspond par rapport à la réalité ?
Alors, c'est les chiffres qui sont issus d'une enquête statistique du ministère de l'Éducation nationale. C'est un recensement sur l'ensemble des établissements, du premier degré et du second degré, hein, ça va jusqu'au lycée, sur tous les établissements donc qui accueillent des élèves allophones. Alors maintenant, on parle d'allophonie plutôt pour essayer de valoriser la pratique de différentes langues. Donc des élèves allophones nouvellement arrivés, et ça veut dire que selon la circulaire de 2012, ces élèves sont arrivés depuis moins d'un an en France. Donc ils sont effectivement relativement bien répartis sur l'ensemble du territoire national, avec beaucoup plus d'élèves dans cette situation en région parisienne, parce qu'il y a plus effectivement de populations migrantes en région parisienne, mais globalement c'est très bien réparti sur l'ensemble du territoire.
Et comment est organisée la scolarisation de ces enfants à l'échelle nationale ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise la politique française pour scolariser ces enfants ?
Oui, tout à fait. Alors, dans beaucoup de pays, il y a des dispositifs spécifiques d'accueil hein, pour ces élèves qui ne parlent pas la langue du pays dans lequel ils arrivent. En France, il y a des dispositifs d'accueil depuis les années 1970. Aujourd'hui, depuis cette circulaire de 2012 qui a quand même pas mal fait changer les choses en faveur de l'inclusion, justement, dont parlait Anouk. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'inscrire les élèves qui arrivent en classe ordinaire, en classe comme n'importe quel élève. Et effectivement, ces élèves sont sortis de la classe ordinaire pour quelques heures par jour, quelques heures par semaine, là, ça dépend des configurations locales, pour l'apprentissage du français notamment, hein, pour avoir un soutien linguistique. Alors, il y a plusieurs types de dispositifs. Il y a ce qu'on appelle les UPE2A, qui sont des unités d'accueil de ces élèves. Là, dans le premier degré, c'est-à-dire à l'école élémentaire, puisque maternelle, il n'y a pas de tel dispositif. Hein. L'école primaire, les élèves bénéficient dans les UPE2A de à peu près 9 heures de français, normalement 9 heures de français
donc
par semaine.
Donc en dehors de la classe.
En dehors de la classe. Donc ils sont sortis, hein, comme l'expliquait Anouk, ils sont sortis de la classe pendant à peu près 9 heures par semaine, ça dépend des établissements.
Ils ne font pas que du français d'ailleurs, hein. Ils leur font faire des fois des mathématiques, oui. Parce qu'ils ont aussi besoin de... Des fois, de connaître le nom des chiffres. Enfin, ouais. on est vraiment sur l'apprentissage.
Il y a l'acquisition du langage mathématique aussi qui est important et qui permet aux élèves de progresser aussi dans d'autres
disciplines. Et là, ils sont en tout petit groupe ou ils sont même tout seuls parfois avec,
non, deux, tout seuls, non. Non, non, ils sont 6, 7, ça dépend des écoles. Hein, mais tout seuls, en théorie, non.
Et quelles sont les obligations légales de la France ? Vis-à-vis de ses enfants.
Alors c'est l'obligation scolaire. L'obligation scolaire est là pour tout élève, quelle que soit sa situation administrative et quelle que soit la situation administrative des parents.
Ouais. Ça veut dire que dans ces 60 000 enfants, 60 700 non francophones nouvellement arrivés, on ne comptabilise pas par exemple les enfants de Rome ?
Alors, on les comptabilise, mais à part, pas dans la même catégorie. Il y a une catégorie pour les élèves allophones nouvellement arrivés et une autre catégorie, inventée aussi par le ministère de l'Éducation nationale, sur les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Donc, ça concerne les gens du voyage, les familles de voyageurs, qui sont d'ailleurs pas toujours mobiles, hein, certaines sont sédentaires. Et puis, ça concerne aussi tous les itinérants, et notamment dans le sud de la France, les gitans. Notamment gitans espagnols ou ceux qui se sont implantés plus durablement dans le sud de la France et qui ne sont pas forcément mobiles, en tout cas entre les deux pays. Donc il y a beaucoup de configurations très différentes selon les académies, les départements. Mais c'est une catégorie comptabilisée à part avec des dispositifs d'accueil propres également.
Et est-ce qu'il y a des problèmes de délai d'affectation ? Est-ce que il y a eu un moment donné où on a parlé de classes vides qui attendent leurs élèves migrants en Seine-Saint-Denis, par exemple ? Ça a été le cas en 2017. Est-ce que c'est toujours aujourd'hui, il y a toujours des bugs d'organisation, d'affectation ?
Alors, parfois, il peut en avoir. Effectivement, nous, l'étude qu'on a menée portait sur 4 académies en France. Et effectivement, selon les territoires, il peut avoir des bugs. C'est un manque de souplesse, mais c'est une difficulté aussi concrète d'adaptation hein, du ministère de l'Éducation nationale et des directions départementales ou académiques. Parce que les migrations, c'est fluctuant, forcément. Donc, les personnes arrivent au gré des périodes conflictuelles, par exemple, dans certains pays, au gré des réseaux de passeurs aussi. Et du coup, les lieux d'implantation peuvent être différents aussi selon les années. Donc effectivement, j'ai déjà rencontré des enseignantes qui disaient « Mais moi, il y a des années où je suis débordée, j'aurai 30 élèves dans mon dispositif, ce qui est impossible. Hein. Normalement, il y en a à peu près 18 selon les niveaux, entre le premier et le second degré, parfois un petit peu plus. Mais en tout cas, certains parfois sont débordés selon les années. Et puis l'année suivante, il y a beaucoup moins d'arrivées. Mais par contre, le dispositif est toujours dans le même établissement scolaire.
Après, oui, si je peux me permettre, oui, nous, on a eu des situations dans l'école où, en fait, on avait des familles qui étaient sans papier, étrangères, et qui, du coup, se battaient pour être régularisées. Et dans dans ce processus, on les a relogées, c'était dans des squats. Et au moment où on les reloge, on ne fait pas attention à l'endroit où on les reloge. Et l'endroit où on les reloge, il n'y a pas d'enseignant qui leur apprend le français. Donc, on est en permanence entre plusieurs impératifs. Est-ce qu'on reloge ces personnes parce qu'elles vivent dans un squat et parce que c'est pas possible? Mais si on les reloge, on va les mettre dans une école où personne va les prendre en charge.
C'est ça, parce que toutes les écoles ne disposent pas d'un système avec une enseignante spécialisée, capable de prendre plusieurs heures par semaine ses enfants en petits groupes.
C'est le cas dans les grandes villes, mais dans les villages, par exemple, c'est très rare.
Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ce sont des enfants qui se débrouillent tout seuls, et c'est du bricolage avec l'enseignante.
Et c'est très compliqué.
Vous-même, Anouk, vous avez reçu une formation pour accueillir ces enfants? Autre que la formation de professeur des écoles.
Est-ce qu'on peut appeler ça une formation? Une animation pédagogique qui a duré 3 heures.
Donc, 3 heures.
Voilà. Après, on apprend. Ça, c'est tout le métier d'enseignant, on bricole. Mais comme on apprend à accueillir un enfant autiste, comme on apprend à accueillir un enfant porteur de trisomie 21, comme on apprend à gérer les besoins spécifiques et éducatifs particuliers. Avec le temps, comme je suis dans une école de regroupement, j'adapte ce que je suis en train de faire.
Sur des enfants qui ont vécu des traumatismes, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, même si ce sont des enfants qui ne viennent pas de pays en conflit. Ils sont partis pour des raisons économiques, ils sont coupés de leur famille, parfois même ils sont avec leur père, leur mère, voire avec un membre de leur famille.
Ils dorment à l'hôtel très souvent.
Ils dorment à l'hôtel très souvent, oui. Ouais. Comment on gère ces situations-là sur le plan psychologique alors que...
Moi, j'ai tendance à dire qu'on ne les gère pas. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire... Moi, quand les enfants arrivent dans l'école, ils posent leur petit sac avec leurs soucis à l'entrée du portail. Et on n'en parle pas. Et on fait notre journée et on apprend ensemble, on avance ensemble. C'est tous les mêmes, les enfants. Qu'ils aient ce bagage ou qu'ils n'en aient pas, que ce bagage soit lourd ou pas lourd, qu'ils arrivent de Biélorussie ou du quartier d'à côté. Et puis, peu à peu, l'idée, c'est qu'en rentrant, quand ils reprennent leur sac, ils enlèvent un peu de leurs soucis. Puis voilà.
C'est une métaphore que vous leur expliquez d'ailleurs, ça,
oui,
ou pas, les problèmes qui restent dans le sac.
Souvent on en parle. Voilà, je sais que tu as des problèmes, je sais que chez toi c'est pas drôle, je sais qu'à l'hôtel tu en as marre de dormir dans la même chambre que papa, maman et tous tes frères et sœurs, mais on va essayer de mettre ça de côté dans le petit sac là, on va faire notre journée de classe et puis tu verras que ce soir le sac sera un peu moins lourd. Voilà, j'ai déjà utilisé ce genre d'image avec les élèves. Mais comme vous dites, ça concerne les enfants étrangers comme beaucoup d'autres enfants Et il arrive même parfois que des enfants étrangers aient un sac moins lourd que certains enfants français dans nos quartiers. Donc,
Alors, quelle scolarisation pour ces enfants migrants non francophones? Bien sûr, vous pouvez nous appeler si vous êtes confronté à ces réalités. 33 1 84 22 71 71, 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI.
Sept milliards de voisins, c'est sur RFI. Come on, lift your spirits.
Someone who drops in or a face on a telephone screen. When my chips are down and I'm feeling low, who I'm supposed to call? Who gonna help me stand on my feet after I fall? So ladies and gentlemen and boys and girls, this one goes out.
Your Spirit, Allo Black, chez 7 milliards de voisins. On est sur RFI en direct et on parle d'éducation, une éducation pour des enfants à besoins spécifiques, des enfants qui sont non francophones, qui débarquent en France, qui ne parlent pas la langue et qui doivent s'adapter à beaucoup de choses, tous les codes de l'école. Anouk, vous êtes enseignante et vous avez plusieurs élèves de ce type et vous publiez Merci Maîtresse où vous racontez le quotidien de cette classe où on bricole, on avance et on essaye de faire progresser les élèves malgré tout. Isabelle Rigoni, vous êtes sociologue à l'Institut National qui travaille sur les besoins éducatifs particuliers. Vous avez publié un rapport sur ce sujet pour le défenseur des droits. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On accueille une auditrice, Élise, dans la région de Dunkerque. C'est bien cela, Élise ?
Oui, c'est cela. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins et voisines.
Élise, vous êtes enseignante avec des élèves avec ces besoins-là particuliers ?
Alors moi j'ai un poste un peu spécifique, je suis remplaçante, donc je tourne dans plusieurs écoles et on voit effectivement régulièrement des enfants alors qu'ils viennent de différents pays d'Europe, qui ont parfois eu plusieurs migrations, donc qui ont commencé leur scolarité en Italie et qui arrivent ensuite ici en France.
Oui, et qui viennent d'où ?
Alors qu'ils viennent de beaucoup d'endroits, qui peuvent venir du Maghreb, qui peuvent venir des pays du sud de l'Europe, de l'est de l'Europe. Mmh. C'est les situations les plus fréquentes que j'ai rencontrées. Ouais.
Vous vous êtes reconnue dans le témoignage d'Anouk ou vous avez d'autres choses à apporter ?
Oui, effectivement, dans le fait que ce sont des enfants qui ont vécu un arrachement et qui ont aussi tout leur passé familial. Alors un passé qui est peut-être fait de petits drames, mais aussi de la richesse de ce qu'ils ont pu vivre dans d'autres pays. Et c'est tout ça qui fait la joie aussi d'être ensemble et d'apprendre les uns des autres. Mmh.
Vous avez dit au Standard qu'en fait la langue, enfin vous êtes enseignante à l'école primaire, vous avez des élèves de quel niveau ?
Alors, je bouge de classe
oui,
en classe.
Oui, c'est ça, ça change à chaque
fois. De maternelle oui. Ou de plus haute classe, de CM1, CM2.
Oui, mais vous avez dit au Standard que finalement, l'apprentissage de la langue, ce n'est pas le principal problème.
Oui, j'ai eu l'occasion la semaine dernière, en fait, je participe à un projet Erasmus avec 9 collègues français, où on partage avec des enseignants britanniques et roumains nos réalités dans des classes avec des enfants allophones. Oui. Et donc la semaine dernière, nous étions en Roumanie et mes collègues donc, de la région lilloise qui ont des enfants roms dans leur classe qui viennent de Roumanie ont pris, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une claque, mais en tout cas ont été amenés à prendre un peu de recul en voyant la réalité de ce que peut être une école en Roumanie, ouais, et les habitudes de classe.
Et quelle est-elle cette... Parce qu'en Roumanie, il y a des enfants qui ne sont... Alors, on ne va pas dire francophones, mais qui ne parlent pas le roumain, qui sont...
Roumanophones.
Ouais.
Oui. On était à 300 km au nord de Bucarest, donc ouais, dans la ville de Bacău, où il y a des enfants donc, de la communauté rome qui parlent roumanie, mmh, et d'autres enfants de la communauté hongroise qui parlent le Csango. Mmh.
Et comment sont-ils accueillis dans ces écoles en Roumanie?
Alors, il y a une scolarité qui est proposée. Ce qui nous a beaucoup marqué, aussi bien chez nos collègues anglais que chez nos collègues roumains, c'est que les écoles dans lesquelles ils sont accueillis ont au sein de leur équipe des médiateurs, dont le rôle est de vraiment de faciliter le lien avec les familles des enfants pour que la scolarité soit régulière, que les enfants fréquentent l'école régulièrement. Donc, ils peuvent aller taper à la maison des familles pour demander des nouvelles quand l'enfant n'est pas là.
Ouais, ce qui n'existe pas en France, hein, Isabelle.
Il n'est pas pris en charge par l'éducation nationale,
ouais,
par des associations partenaires.
Ah oui, d'accord. Et vous confirmez, Isabelle Rigoni, ce type de, oui, de médiateur, ça n'existe pas en France?
Oui. Alors, ça existe, mais effectivement, comme le dit l'auditrice, c'est pas directement pris en charge par l'éducation nationale. Par contre, il peut avoir, dans certains endroits, un travail partenarial aussi avec l'éducation nationale et surtout avec les enseignants des classes. Mais effectivement, on retrouve des médiateurs associatifs pour les populations de gens du voyage, itinérantes, qui sont traditionnellement éloignées de l'école, pour différentes raisons, et qu'on essaye d'amener justement vers la scolarisation. Et du coup, les médiateurs, effectivement, font le lien, eux, très, très particulier avec les familles, en allant sur les campements, en allant visiter les familles, en essayant de gagner cette confiance avec les familles. Et les médiateurs travaillent ensuite, effectivement, avec les enseignants qui les ont ensuite dans les classes.
En fait, je pense que c'est effectivement peut-être l'un des points les plus difficiles, c'est l'absence de relation avec les familles.
Ouais. Parce que vous avez même du mal à faire venir les parents à l'école parfois.
Alors c'est très compliqué, puis il y a la barrière de la langue, donc quand on a des choses très précises à leur dire, c'est important hein, quand un enfant est à l'école d'avoir une relation enseignant-parent qui soit saine. Alors c'est pas de se parler tous les jours, c'est pas mais il faut que cette relation existe. Et quand la barrière de la langue est ce qu'elle est, quand on a une histoire souvent aussi de papier, les parents n'osent pas venir devant l'école, ou ils viennent très très vite, ils repartent très vite avec leur enfant.
Vous racontez quand même dans votre livre qu'il y a des moments où il y a des rondes policières,
oui, c'est arrivé,
aux alentours de l'école.
C'est arrivé, donc... chercher une famille, on avait caché le petit garçon pour pas qu'il... Oui, ça arrête, malheureusement. Et du coup, oui, je pense que ça manque beaucoup de pouvoir expliquer aux parents ce que c'est l'école, de pouvoir leur dire quels sont leurs devoirs de parents en tant que parents d'élèves, c'est important. Donc on arrive, nous, à bidouiller, comme disait Isabelle, c'est-à-dire à trouver des traducteurs qui viennent et puis on fait venir les familles. Mais est-ce qu'on peut trouver des traducteurs dans toutes les langues? Qui est-ce qui les paye? À quel moment? Enfin voilà, c'est pas encore très... Je pense que c'est ce qui manque le plus.
Élise, vous souhaitez réagir?
Oui, je me retrouve exactement dans les propos que vous donnez. Hein. Je repense à des situations de remise de bulletin où on demande à l'enfant de traduire à sa maman. Donc là, en l'occurrence, il lui traduisait en arabe et elle lui répondait en espagnol. Donc c'était des situations assez marquantes. Ouais. De communication avec les familles et les enfants.
Vous disiez, Élise, que vous étiez il y a quelques semaines, quelques jours en Roumanie, qui reçoit donc des enfants roms. Est-ce que vous avez été témoin de ce qu'on dit beaucoup, c'est-à-dire d'un rejet profond de la société roumaine à l'égard de ces enfants roms, depuis très longtemps d'ailleurs?
Oui, alors j'y ai passé 4 jours, donc je ne prétendrai pas avoir une expertise sur la situation. Mais c'est vrai que les collègues qu'on a pu croiser là-bas, en particulier dans des zones rurales, nous disaient que finalement les autres familles du village ne mettaient pas leurs enfants dans la même école. Donc on n'a pas vu de classe très mixte et très mélangée, mélangeant des enfants roms et des enfants roumains.
Et les collègues anglais, alors que disent-ils, eux, sur leur pratique par rapport à vous, à ce que vous connaissez?
Alors, ce qu'on a découvert en allant les visiter, c'est un peu cette dynamique d'encouragement des enfants, et ça nous a beaucoup marqué, quoi, de faire vraiment des enfants des champions, de faire de la différence une chance. Et nous, en tant que professionnels, on se demandait aussi comment amener cette dynamique-là dans les classes, quoi.
C'est moins dans
la meilleure inclusion des enfants.
C'est moins dans la culture française, vous trouvez?
Dans nos discussions entre collègues, on remarquait que ça nous manquait de faire ça, enfin, que ce n'était pas une pratique. Alors, on encourage les enfants, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais pas avec autant de pêche, pas avec les codes même des enfants. Voilà, inspirer des jeux vidéo pour avoir des codes un peu communs ou même des petits Big Five ou des choses comme ça avec les enfants.
Oui, où on rentre un peu plus dans leur univers finalement. Élise, merci beaucoup de nous avoir appelés. Et bien évidemment, je redonne le numéro de téléphone pour ceux qui voudraient témoigner ou poser des questions aussi à nos invités. Comment sont accueillis ces enfants qui ne maîtrisent pas le français pour ceux qui sont étrangers qui arrivent en France? 33 1 84 22 71 71. Merci à vous et très bonne journée dans la région de Dunkerque.
Bonne journée, merci.
Isabelle Rigoni, comment font les autres pays d'Europe? Je pense à l'Allemagne, je pense à la Grande-Bretagne, je pense à l'Italie. Vous nous disiez que finalement en France, on a une situation qui est quand même assez hétérogène d'un territoire à l'autre, que souvent, Anouk le disait, on bricole aussi hein, beaucoup pour essayer de s'adapter et de combler les manques.
Alors, dans les autres pays, il y a effectivement aussi le même type de dispositif d'accueil pour effectivement apprendre la langue du pays. C'est plus ou moins ancien selon les pays. Il y a plus ou moins une tradition ancienne d'inclusion aussi en classe ordinaire de ces élèves. Je pense notamment à l'Italie, où effectivement la tradition de l'inclusion est beaucoup plus ancienne qu'en France. En France, on était dans des dispositifs fermés pour ces élèves non francophones, qu'on appelle aujourd'hui allophones. Des dispositifs fermés dans lesquels les élèves passaient un an, voire deux ans pour certains, et ne sortaient pas en classe ordinaire. Donc effectivement, ils voyaient leurs petits camarades dans la cour de récréation, mais c'est tout. Mmh. Alors que depuis 2012, effectivement, on a changé de paradigme, on est passé beaucoup plus à l'inclusion. Ce que pratiquait déjà l'Italie, par exemple.
Qui le pratiquait déjà aussi pour les enfants handicapés.
Oui, c'est effectivement cette thématique des besoins éducatifs particuliers, d'ailleurs, pour plusieurs catégories de la population.
Ouais. Hein. Sur cette notion de l'inclusion, ça vous semble profitable pour ces enfants-là, Anouk? Alors, qu'ils soient tous mélangés avec les autres.
Mais ce qui est génial, c'est que quand on accueille des enfants comme ça, allophones, donc notre but, c'est qu'ils parlent le français, et très vite, ils apprennent des mots, c'est pas ceux auxquels on s'attend. C'est par exemple...
Ils apprennent beaucoup de gros mots.
Hein, quand même, gros mots. Et puis c'est par exemple, est-ce que tu te ranges avec moi avant de descendre dans la cour de récréation? C'est passe-moi le ballon. En revanche, pour dire grammaire, conjugaison, lecture, ils ne l'ont pas encore. Donc, comme quoi l'inclusion, elle sert à ça aussi. C'est-à-dire que les premiers mots qu'ils apprennent, c'est des copains, c'est pas de nous. Donc, il faut être clair là-dessus et j'allais dire assez humble. Ils apprennent d'abord de leurs camarades de classe, mais comme nos enfants apprennent d'abord de leurs frères et sœurs avant d'apprendre de leurs parents, on est vraiment là-dedans. Et je le raconte dans le livre et je l'ai revécu là récemment avec deux autres enfants, j'en parle sur le blog, comment ces enfants allophones, quels que soient d'où ils viennent, sont attirés les uns vers les autres. J'avais une histoire d'amitié que je raconte dans ce bouquin qui est absolument génial entre un petit garçon qui arrivait de Syrie et un autre qui arrivait d'Albanie. Et ils étaient, en l'occurrence, je les avais mis ensemble dans la classe, non pas pour les mettre dans un coin loin des autres, mais parce que comme je leur faisais faire du travail un peu différent, ça me permettait d'arriver et de les aider. Et je les ai surpris plusieurs fois se parler. Alors, en quelle langue?
Ah oui.
Impossible de le savoir. Mais ils étaient copains, mais ils étaient inséparables. À tel point que quand on a fait les classes pour l'année suivante, on a décidé de les séparer parce qu'en fait, ensemble, ils retournaient la classe, quoi. Et là, on a encore vécu ça récemment avec le petit Biélorusse dont je vous parlais. Et est arrivé en même temps qu'un petit Serbe. Ils se sont trouvés, ils ne se lâchent pas. Dans la cour de récréation, ils se tiennent la main, ils sont ensemble.
Et aucune langue en commun?
Rien. Le déracinement. Sûrement, le fait d'être différent, je ne sais pas.
Il y a des conflits entre élèves, c'est-à-dire entre non-francophones et les autres?
Non. Moi, j'en ai jamais vécu, en tout cas.
Il n'y a pas plus de violence du fait que vous recevez des enfants qui sont dans de réelles difficultés, qui ont vécu des traumatismes. Et puis, en plus, comme vous êtes dans une école en réseau d'éducation prioritaire, la majorité, de toute façon, de vos élèves qui ont pris les francophones connaissent de grosses difficultés sociales. Est-ce que, du coup, il y a plus de violence ou pas?
Non.
Parce que vous êtes en tout petit groupe aussi, vous?
Oui, parce qu'on est en petit groupe, mais même parce que les règles, elles sont posées dans l'école, quelle que soit l'école, et que la violence y est interdite. Ça arrive, hein, des enfants qui arrivent de l'étranger, dans la cour, ils jouent à faire pampan, à se battre. Bon, on leur dit une fois, deux fois, ils ne le font pas une troisième fois. Étranger ou pas étranger, je crois que de toute façon, ça, c'est toujours lié au cadre, à l'école, à l'équipe enseignante. La violence, il n'y en a pas. Ils sont trop petits, je pense, pour être violents.
Le CP à 12, forcément, il faut que je vous pose la question, que ce soit des élèves étrangers ou pas, d'ailleurs. Le CP à 12, c'est la grande innovation de la présidence Macron. Qu'est-ce que vous en faites comme bilan là, en tant que professeur, en tant qu'enseignante ?
Alors moi, je peux vous en faire qu'un bilan extrêmement positif. D'abord pour la bonne raison que on a la chance d'avoir pu avoir chacun notre salle de classe. Donc j'ai une salle de 50 mètres carrés avec 12 élèves.
Ouais, ça s'appelle le luxe.
Ça s'appelle le luxe. Ça ne va pas durer parce que l'année prochaine, il faut que je la partage avec une collègue. Mais ce n'est pas grave, je l'aime beaucoup, on va très bien s'entendre. Mais donc du coup, oui, le bénéfice est énorme.
En même temps, au fil des pages de votre récit « Merci maîtresse », il y a quand même, Perse, un manque de moyens chronique permanent. Il y a une psychologue pour combien d'établissements scolaires ?
Je crois qu'elle est sur 9 ou 10 établissements.
Ouais. Alors qu'il y aurait des besoins quotidiens en psychologue pour ces enfants-là.
Infirmière scolaire, il n'y en a pas, par exemple.
Ouais. Isabelle Rigoni, il y a des écoles qui sont débordées par, vous le disiez, par plus d'enfants migrants que d'autres. Par exemple, un territoire comme Mayotte. Ça pose de gros problèmes aujourd'hui.
Ah oui, effectivement, Mayotte, c'est un cas très particulier en France. Il y a le territoire comme la Guyane aussi. Hein, on a travaillé avec des collègues aussi sur le territoire guyanais. Et effectivement, ça pose d'autres problèmes que sur le territoire métropolitain.
Qu'est-ce qui vous fascine le plus, Anouk, dans les facultés d'adaptation des enfants et de ce que vous voyez dans leur progrès au quotidien ? Vous nous disiez d'ailleurs, parfois, ces enfants étrangers progressent, ou en tout cas peuvent réussir mieux scolairement que les autres.
Bien sûr, mais je le pense. Je pense qu'ils apprennent beaucoup plus vite. Ils ont une envie, consciente ou inconsciente, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont une envie d'apprendre qui transpire. Ils arrivent là avec les yeux et presque la bouche ouverte en disant « Maîtresse, donne-moi un cahier, donne-moi quelque chose. Ça y est, je suis là, maintenant, je me pose et je vais apprendre. » Enfin, moi, c'est comme ça que je le traduis la plupart du temps. Et puis forcément, ils apprennent mieux parce que, enfin, j'ai par exemple, cette année dans ma classe, une petite Albanaise, Rome d'Albanie, je pense. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très difficile pour elle parce que je ne donne pas de devoirs, mais je demande quand même aux enfants de relire les pages du livre du manuel de lecture le soir. Et cette petite fille ne peut pas le faire parce que sa maman, en plus de ne pas parler français, est analphabète. Donc elle est très embêtée, elle ne peut pas apprendre la poésie, elle ne peut pas apprendre le livre de lecture. Mais elle se débrouille, je ne sais pas comment, hein, mais elle est arrivée à rattraper le niveau de lecture de tous les autres en l'espace de 2 mois. Je ne sais pas comment elle s'est prise, j'en sais rien. Mais elle a cette espèce de, j'allais dire, de niaque et d'envie. Je pense que l'envie, c'est d'être comme les autres. Voilà, je pense qu'on en est là aussi.
Isabelle Rigoni, quelles sont les préconisations de votre rapport pour améliorer quand même l'organisation de l'accueil de ces enfants-là ?
Alors, il y a beaucoup de préconisations. On en a livré 76, donc je ne vais pas toutes vous les donner. Mais enfin, les principales sont l'augmentation des moyens qui sont alloués pour ces populations allophones.
Qui sont très en dessous des besoins aujourd'hui.
Qui sont en dessous des besoins, qui sont... Effectivement, il n'y a pas suffisamment de dispositifs d'accueil pour ces élèves. On a parlé des dispositifs dans lesquels les élèves pouvaient aller entre 9h et 12h par semaine environ, entre le premier et le second degré. Mais beaucoup d'établissements n'ont pas de dispositifs. Et du coup, il y a ce qu'on appelle les brigades français langue seconde, hein, pour apprendre le français en tant que langue seconde. Mais ces brigades français langue seconde, ça veut dire donner 3 heures à peu près de français par semaine. Et on a beaucoup parlé effectivement du premier degré dans l'émission, mais il y a aussi le second degré. À partir du collège, sans parler du lycée, bien évidemment, où là, le niveau est encore plus élevé. Mais arriver au collège, c'est beaucoup plus difficile pour les élèves parce qu'ils sont plus grands, parce que l'acquisition de la langue se fait peut-être moins facilement qu'effectivement en CP, où ils apprennent à lire avec les autres élèves.
Il faudrait plus de moyens, en réalité.
Donc, il faudrait quand même beaucoup plus de moyens, en particulier sur certains territoires, mais globalement, plus de moyens pour les dispositifs, beaucoup plus de moyens pour les enseignants aussi. En termes de formation, on l'a dit avec Anouk tout à l'heure, qui disait qu'effectivement il y avait quand même très peu de formation sur le sujet, y compris pour les enseignants qui enseignent dans ces dispositifs d'accueil, donc qui sont quand même eux les plus spécialisés a priori, mais pour autant aucun diplôme n'est requis, aucun diplôme de français langue seconde n'est requis pour eux. Donc on a des enseignants qui se retrouvent dans ces dispositifs sans forcément avoir plus de formation qu'un enseignant en classe ordinaire.
Je dirais que les moyens doivent venir un peu de partout, je pense notamment aux mairies qui équipent les écoles et qui n'équipent pas forcément l'école d'une salle de classe pour pour ces enfants-là. Donc ça, ça fait partie.
Qu'est-ce qui manquerait, par exemple, que ne donnent pas les mairies ?
Eh bien, une salle de classe. Dans certaines écoles, ils n'en ont pas. Donc on se retrouve avec des enseignants spécialisés qui prennent les enfants allophones dans la salle des maîtres, la salle où on mange, où on fait nos photocopies, où on a notre Tupperware qui traîne. Des moyens aussi budgétaires, c'est-à-dire que chaque année, la mairie nous donne une petite enveloppe qui nous permet d'acheter des livres, des cahiers, etc. Ça, c'est la mairie qui le décide. Donc voilà, ça peut faire partie aussi,
oui,
des leviers.
Effectivement, dans les classes aussi, ce qu'on observe, c'est que lorsque les élèves, alors surtout dans le second degré au collège, vont en classe ordinaire, ils n'ont pas de manuel scolaire. C'est-à-dire, on donne des manuels scolaires à tous les élèves, bien entendu, lorsqu'ils arrivent au mois de septembre, à la rentrée. Mais ces élèves allophones arrivent tout au long de l'année, au fil de l'eau. Et les élèves, particulièrement ceux qui arrivent après les vacances de la Toussaint, ne disposent pas de manuel scolaire. Ils n'ont pas de manuel.
Ça peut sembler quand même assez surprenant, malgré l'investissement des enseignants. Alors, quid des mineurs isolés ? On n'en a pas encore parlé. Ils sont très souvent refoulés des structures d'accueil en raison de contestations sur leur âge. C'est une situation qui ne cesse d'être dénoncée par les associations, y compris par l'UNICEF, l'agence onusienne. On va en parler justement dans quelques instants. Ça sera juste après Free Me. Bimini et The Black Belts, Free Me, chez 7 milliards de voisins. On est en ligne maintenant avec le directeur de l'UNICEF France. Bonjour Sébastien Lyon.
Bonjour.
Il faut qu'on revienne sur le grand coup de gueule, on va dire, de l'UNICEF, qui a été pas mal médiatisé ces derniers jours. Pour la première fois, une agence des Nations Unies, à savoir l'UNICEF, avec 18 autres organisations, ça peut, des ONG, des syndicats, conteste devant le Conseil d'État un décret qui durcit les conditions de prise en charge des mineurs isolés. Alors pourquoi l'UNICEF est entré dans ce débat ?
Bah effectivement, vous l'avez dit, c'est une démarche inhabituelle pour nous. C'est la première fois de notre histoire qu'on a l'occasion de contester un décret devant le Conseil d'État aux côtés d'une vingtaine d'associations. Le problème qu'on a avec ce décret, c'est que c'est un décret qui porte atteinte assez gravement, même gravement, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit à sa protection. Droit à sa protection qui est garanti par la Constitution française et les textes internationaux que la France a signés, comme la Convention internationale des droits de l'enfant.
Contre quoi vous vous insurgez exactement ?
Alors en fait, pour être un peu précis, ce décret a créé en fait un fichier qui recense les jeunes qui entrent sur le territoire français. Et ce fichier est connecté, disons, au fichier du ministère de l'Intérieur et facilite la possibilité de reconduire à la frontière des jeunes qui auraient été évalués majeurs, par exemple. Mais on sait que cette première évaluation, qui aujourd'hui est faite par les départements en France, elle est parfois erronée et elle fait l'objet pour beaucoup d'enfants d'une contestation devant un juge des enfants. Mmh. Or, avec ce décret, il serait possible d'imaginer que des enfants ou des jeunes qui soient évalués majeurs soient reconduits dans leur pays d'origine avant même qu'ils aient pu faire valoir leurs droits devant un juge des enfants et être réévalués mineurs, par exemple. Mmh. Et on rappelle que si un jeune est évalué mineur, c'est-à-dire qu'il a moins de 18 ans, alors la France lui doit protection et accueil. Donc il y a un enjeu qui est important sur cette évaluation de la minorité et sur les recours que les jeunes peuvent avoir en cas d'évaluation qui les déclare majeurs.
Le fond du problème, c'est vraiment les méthodes pour évaluer l'âge des jeunes migrants qui arrivent seuls sur le territoire français. C'est très compliqué. Certains disent que les actes de naissance venant de certains pays sont souvent jugés faux par les autorités françaises. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il est de plus en plus difficile, finalement, de savoir exactement quel est l'âge réel de ces jeunes.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Le point essentiel ici, c'est l'évaluation de l'âge. Parce que le traitement derrière qui est réservé à un moins de 18 ans est différent du traitement réservé à un plus de 18 ans. Et aujourd'hui, il n'y a pas de méthode infaillible. Et il n'y a pas de méthode uniformisée en France non plus. C'est-à-dire que chaque département a le choix de la méthode qu'il va utiliser pour évaluer l'âge de l'enfant. Alors, il y a plusieurs méthodes. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les papiers d'identité. Qui sont contestés, les documents d'état civil, par certains départements. Il y a évidemment les tests osseux, qui sont très décriés aussi, parce qu'ils ne constituent pas une méthode fiable, on le sait. Il y a un écart potentiel dans l'âge qui est d'un an et demi. Alors c'est sûr que pour évaluer des jeunes qui ont 16, 17 ou 18 ans, une marge d'erreur d'un an et demi, c'est pas acceptable. Et puis, il y a une évaluation qui est celle qu'on appelle de nos voeux, qui est une évaluation sociale avec un traducteur et qui permet de passer du temps avec le jeune pour évaluer avec lui son âge, comprendre son parcours, d'où il vient, quand est-ce qu'il est né, etc., etc. Et c'est la seule façon, en quelque sorte, de connaître bien la vie de ce jeune et de pouvoir évaluer son âge. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les méthodes sont très différentes. Il y a des marges d'erreur et donc il faut garder cette possibilité pour ces jeunes d'avoir des recours, justement pour corriger et atténuer les marges d'erreur qu'il y a dans les différentes méthodes qu'on vient de détailler.
Et de faire valoir leurs droits quand ils en ont. La Convention internationale des droits de l'enfant, faite cette année, c'est 30 ans.
Oui, absolument. C'est d'autant plus important dans une année d'anniversaire. La Convention des droits de l'enfant, elle a bien entendu été signée par la France, mais aussi par 190 autres pays dans le monde. Et elle garantit que l'intérêt supérieur de l'enfant soit respecté. Et aujourd'hui, c'est vrai que avec ce décret, pour y revenir, il est possible qu'en France, un jeune de 17 ans, dont l'évaluation serait faite trop vite ou avec une marge d'erreur, soit reconduit par erreur dans son pays d'origine. Et ça, c'est inacceptable pour nous.
Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui avec la vingtaine d'organisations, associations ?
Alors, on demande la suspension immédiate de ce décret. Et c'est pour ça qu'on a fait la saisine du juge des référés du Conseil d'État, dont on demande que dans les jours ou dans les semaines qui viennent, il suspende le décret, dont je voudrais quand même préciser qu'il est déjà en application sous forme de test dans 4 départements en France. Donc le compte à rebours commence déjà à tourner pour certains de ces jeunes qui pourraient se retrouver face à cette situation dans les heures qui viennent.
Merci beaucoup Sébastien Lyon, directeur de l'UNICEF France. Isabelle Rigoni, vous voulez ajouter un mot, je crois.
Oui, peut-être pour compléter sur la question de l'école, justement, qui nous intéresse, la question qui se pose aussi beaucoup pour les mineurs isolés étrangers, c'est la question de la scolarisation. Souvent, on limite le droit à l'éducation dans l'imaginaire à 16 ans, mais au-delà de 16 ans, les jeunes ont droit aussi à une scolarisation.
À une formation pour avoir
formation,
un avenir.
Tout à fait.
Ouais. Merci beaucoup Isabelle Rigoni. Merci à vous, Anouk, que vous publiez.
Merci
maîtresse aux éditions du Cherche Midi. On vous retrouve aussi sur votre blog. Et merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Nicolas Benita, Didier Cherouz. Bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions grâce à nos réseaux sociaux et puis en podcast. podcast sur RFI.fr et l'appli RFI Pure Radio. Demain, 7 milliards de voisins. Restez zen quand on vous critique. Trouvez les bons mots, la bonne répartie. Comment faire face à l'adversité. À demain les voisins.